VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Nouakchott, midi à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, l'opposition demande à la communauté internationale de ne pas cautionner les prochains scrutins dans le pays. À son avis, l'organisation des législatives et des municipales du 5 juin est impossible, vu le désordre politique et sécuritaire actuel. Par ailleurs, la police est à l'œuvre aujourd'hui à Bujumbura pour empêcher tout rassemblement d'opposants à un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza. La veille, selon un journaliste de l'AFP, des tirs soutenus ont été entendus avant la tombée de la nuit dans le quartier de Chibitoke, fief de la contestation. Anne Albertson.
Un photographe étranger a indiqué avoir vu un mort et deux blessés par balle dans le quartier. « Ce sont les miliciens du parti qui tirent », a affirmé un jeune de Chibitoke qui a affirmé les avoir vus. Ils sont vêtus en civil et ont des armes. Plusieurs habitants ont indiqué à l'AFP avoir été prévenus par des amis ou des voisins que de jeunes partisans du pouvoir étaient descendus du quartier voisin de Kamenge, fief du CNDD-FDD, sur Chibitoke. Les tirs avaient cessé à la tombée de la nuit quand le journaliste de l'AFP a quitté les lieux.
Crise en RCA, la présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, a exhorté hier la communauté internationale à verser l'aide promise pour financer les élections d'ici à la fin de l'année. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
À l'ouverture d'une conférence sur l'aide à la Centrafrique à Bruxelles, Mme Catherine Samba-Panza a déclaré que l'ONU avait estimé les besoins de la Centrafrique à 613 millions de dollars pour 2015. Mais seulement 21% de ce montant a été versé. Elle a malgré tout assuré que les élections se tiendront avant la fin de l'année 2015. Le forum de Bangui a décidé le 11 mai de reporter les élections présidentielles et législatives, initialement prévues avant le mois d'août. Mais Florence Limbio, ministre de l'économie, précise qu'il n'y a pas assez d'argent pour les financer car il manque près de 17 millions de dollars.
La guerre contre Boko Haram maintenant. Le Tchad et le Cameroun affirment qu'un grand nombre de mines ont été posées par les combattants du groupe islamiste nigérian le long de la frontière camerounaise avec le Nigeria. Situation qui met en danger non seulement les populations civiles et les militaires, mais aussi le bétail. La menace des mines a poussé les deux pays à déployer des unités spécialisées de leurs armées respectives pour détecter et détruire ces engins de mort. Voici un reportage du correspondant de La Voix de l'Amérique à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka, présenté par Jacques Aristide.
La mission est périlleuse, mais les militaires tchadiens et camerounais ont donc décidé de conjuguer leurs efforts pour l'accomplir. Leur objectif, encercler la forêt de Sambisa, considérée comme l'ultime refuge de Boko Haram. La bataille est donc difficile dans cette zone où de nombreuses mines antipersonnelles ont été détectées. Ce qui fait que pour l'heure, il est encore impossible de complètement sécuriser la partie nord de la frontière du Cameroun avec le Nigeria. Le ministre camerounais de la Défense, Edgar Alain Mebengo.
Son Excellence Idriss Déby Itno a pris la décision pragmatique de venir aux côtés du Cameroun pour conduire cette guerre. Beaucoup a déjà été fait, même si beaucoup reste à faire. À mener cette guerre jusqu'à l'éradication définitive du groupe terroriste Boko Haram.
Mais cet assaut militaire contre la forêt de Sambisa n'est pas nouveau. Le mois dernier, l'armée nigériane a lancé des raids aériens contre cet endroit, une offensive selon Abuja qui a pu lui permettre de libérer des centaines de personnes détenues en captivité par les insurgés. Toutefois, les militaires nigérians ont également concédé que les mines antipersonnelles ont entravé leur avancée dans cette forêt en vue d'éradiquer les islamistes du groupe armé. Les populations locales ne sont pas non plus à l'abri de ces mines, car beaucoup de villageois en ont été victimes, des mines qui frappent également leur bétail. Les habitants de la région ne se sont donc pas fait prier pour faire part de leur grief à ce sujet au commandant des forces camerounaises contre Boko Haram, le colonel Jacob Kodji.
Il contribue activement dans cette lutte en fournissant les informations utiles aux autorités compétentes.
Depuis ces deux derniers mois, le Cameroun n'a pas été confronté à des attaques de grande envergure de Boko Haram, à l'image de celles très meurtrières que le groupe a perpétrées par le passé sur le territoire camerounais. Évidemment, Yaoundé demeure éminemment prudent, car d'après des militaires camerounais, les mines antipersonnelles que les islamistes nigérians ont plantées tout autour de leur cachette sont destinées à dissuader les armées du Tchad, du Cameroun et du Nigeria d'avancer dans la forêt de Sambisa, le temps pour les insurgés de se remettre en ordre de bataille.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, Pascal Affine Guessan, président du Front populaire ivoirien et candidat de ce parti aux prochaines présidentielles, a été entendu hier par un juge dans l'enquête sur l'assassinat du général Robert Guéï. Le point avec Félix Yepassi Zembrou.
Monsieur Affine Guessan était premier ministre au moment des faits. Le général Robert Guéï a dirigé la junte militaire après le coup d'État du 24 décembre 1999 qui avait renversé le président Henri Konan Bédié. Il avait été vaincu par Laurent Gbagbo à la présidentielle d'octobre 2000 et chassé du pouvoir par la rue alors qu'il tentait de s'y maintenir. Le général Guéï, âgé de 61 ans, avait été assassiné ainsi que son épouse le 19 septembre 2002, jour du coup d'État manqué contre Laurent Gbagbo, qui avait entraîné la prise du Nord et de l'Ouest par une rébellion. Les partisans de Guéï accusaient le pouvoir d'avoir tué leur chef, ce que le camp Gbagbo a toujours nié. Aujourd'hui, le petit parti de Guéï, l'UDPCI, est allié au président Alassane Ouattara, candidat à sa réélection en octobre prochain.
En Guinée, l'opposition dit ne voir aucun progrès dans les instructions données par le président Alpha Condé à son gouvernement d'ouvrir un dialogue avec les opposants pour favoriser l'organisation d'élections présidentielles et communales transparentes et équitables. On écoute Aboubakar Sylla, porte-parole de l'opposition.
Nous allons nous concerter davantage et d'ici vendredi prochain, nous allons donner une réponse écrite au ministre de la Justice quant à notre participation et surtout aux conditions d'ouverture du dialogue. C'est pour avoir un dialogue avec le gouvernement et avec sa mouvance politique que nous avons fait des manifestations. C'est pour avoir ce dialogue qu'il y a eu des morts. Je vous rappelle qu'il y a eu aujourd'hui 64 morts depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, qui est mort par balle et par les forces de l'ordre dans le cadre de manifestations pacifiques, sans pour autant qu'aucune procédure judiciaire ne soit à ce jour engagée pour identifier les auteurs, encore moins, et traduits devant les tribunaux. Donc, nous sommes demandeurs de dialogue et dès que l'opportunité va se présenter, nous allons sauter sur le dialogue de manière à arriver par la concertation à la solution de la crise guinéenne.
Aboubakar Sylla, porte-parole de l'opposition. Niger, 38 organisations de la société civile appellent à une marche le 2 juin à Niamey pour exiger la libération immédiate de deux de leurs leaders. Moussa Tchangari de l'association Alternative Espace Citoyen est accusé de complicité avec l'organisation islamiste nigériane Boko Haram et Nour Mamadou Azrika du mouvement pour une citoyenneté responsable est accusé lui d'atteinte à la sécurité nationale. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Ali Idrissa, signataire de la déclaration de la société civile à Niamey.
Refusons d'accepter que nos camarades gardent prison sous de fallacieux prétextes parce qu'ils n'ont fait que émettre des avis sur des chaînes de radio et de télévision. En matière de délit de presse chez nous, aujourd'hui, c'est dépénalisé pour avoir émis des avis, pour seulement avoir, donc au cas de nous, exigé à ce que les forces de sécurité soient mises dans les conditions pour pouvoir combattre les terroristes. Nous ne pouvons pas considérer que c'est lui qui va être accusé d'atteinte à la défense nationale. Il n'a fait que appeler à un renforcement du dispositif nigérien de lutte contre Boko Haram.
Moussa Tchangari, que vous connaissez très bien, accusé de coopération avec Boko Haram.
Moussa a fait un rapport tiré de fait sur le terrain. Moussa a été voir des chefs traditionnels de la région de Kifa qui ont été interpellés et il a été pris dans ces conditions pour être accusé lui aussi de complicité avec Boko Haram. Comment comprendre que Moussa, un acteur de la société civile qui lutte depuis tout ce temps pour la démocratie et les droits humains, depuis les années 90, puisse être lui se mettre en complicité avec Boko Haram. Pour nous, Moussa n'est pas coupable des faits dont il est accusé. Inch'Allah, la justice nous dira ce qu'il en est. Mais il est très urgent de libérer nos camarades.
Ali Idrissa, signataire de la déclaration de la société civile à Niamey. Et pour terminer, La police suisse a appréhendé ce matin à Zurich 7 hauts responsables de la FIFA en rapport avec des inculpations de corruption que le département américain de la justice devrait annoncer publiquement aujourd'hui contre 9 officiels élus et 5 fonctionnaires de l'organe suprême du football dans le monde. Il y a également des perquisitions à Miami au siège de la CONCACAF. Les arrestations ont lieu alors que la FIFA se réunit pour élire son président. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et aussi notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.